Ce culte étant dédié à la sensibilisation de la persécution des chrétiens dans le monde, pour m'aider, j'ai moi aussi été fouiller le site de Porte Ouverte, l'association chrétienne, comme vous le savez maintenant, qui est dédiée à cette cause. Cette carte que vous avez à l'écran, qu'on vous a déjà présentée, représente les 50 pays où, je cite, « être chrétien coûte le plus ». Autrement dit, où la persécution des chrétiens est la plus virulente. Sans grande surprise, on y retrouve plusieurs pays au régime islamique ou totalitaire pour lesquels on a prié, voire même parfois les deux en même temps. J'aimerais vous montrer une autre statistique qui me paraît intéressante. Voici assurée en bleu les 20 pays où en 2013, la croissance du christianisme était la plus forte. Par croissance, j'entends la multiplication du nombre de chrétiens. S'ils étaient 10 000 et qu'ils deviennent 20 000, c'est un plus 100%. Ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est que nous retrouvons une partie de la carte précédente. Entre autres, l'Arabie Saoudite, le Yémen et le Qatar, respectivement 12e, 14e et 18e pays persécuteurs. Vous pouvez donc noter deux choses. La persécution n'est visiblement pas un obstacle à la croissance du christianisme. Et la France ne fait ni partie des pays où la persécution règne, ni partie des pays où le christianisme croît fortement, malheureusement. Une des situations inverses à celle de la France d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Actes au chapitre 7. Nous allons lire ensemble comment Étienne fait face à la persécution tout en annonçant l'Évangile. Nous lirons les 10 derniers versets. Vous pouvez donc ouvrir votre Bible si vous en avez une. Dans le livre des Actes chapitre 7 et nous lirons à partir du verset 51. Pour vous situer un petit peu le passage dans le récit de l'évangéliste Luc, nous sommes quelques chapitres après la mort et la résurrection de Jésus. L'Église chrétienne en est à ses débuts à Jérusalem. Depuis l'ascension de Christ auprès de Dieu le Père, les apôtres annoncent son œuvre au peuple. Cela ne plaît pas beaucoup aux responsables religieux qui avaient fortement encouragé la condamnation à mort de Jésus. Les apôtres ont déjà reçu un avertissement par le Grand Conseil et ont été battus en guise de châtiment. Les décisions de justice sont actées dans une salle, celle-ci à l'écran, à l'intérieur du temple de Jérusalem, juste à côté du lieu où les prêtres officient. Pour ceux qui ont des bons yeux, vous pouvez voir une personne en noir au milieu, donc c'est l'accusé présumé coupable. Autour, 70 sages et au centre, sur une chaise teintée de rouge, le grand prêtre. Plutôt officiel comme disposition. Le chapitre 6 nous raconte qu'Étienne, un des apôtres, avait continué à annoncer Christ publiquement. Il est donc convoqué à son tour par le Grand Conseil. Après leur avoir rappelé dans une longue tirade l'histoire de l'Alliance, il s'adresse personnellement aux sages qui l'accusent. Je lis dès le verset 51. « Ô vous, hommes obstinés, qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous l'avez bien reçu, la loi de Dieu, par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. » À ces mots, ceux qui siégeaient au Grand Conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Ce message sera découpé en deux parties. Tout d'abord, les hommes ont toujours rejeté la parole de Dieu. Ensuite, Jésus, un message qui mérite d'être annoncé. Étienne n'y va pas par quatre chemins. À l'image des prophètes de l'Ancien Testament, il dénonce sans détour l'attitude de ses interlocuteurs. « Hommes obstinés, véritables incirconcis, vous ressemblez bien à vos ancêtres. Vous n'avez jamais observé la parole de Dieu. » Véritable incirconcis n'est pas l'insulte la plus à la mode aujourd'hui. Mais pour le Grand Conseil, elle l'est particulièrement. Le Grand Conseil était, à son temps, garant de la vie religieuse en Israël. Le président de cette cour de justice, qui demande à Étienne de justifier ses actes en début de chapitre, est le grand prêtre. Celui-ci est le garant de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il est la seule personne habilitée selon la loi de Dieu à pénétrer une fois par an dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, lieu de la présence de l'Éternel. À l'inverse de ça, un incirconcis est une personne ne faisant pas partie de l'alliance de Dieu et de son peuple. C'est l'équivalent d'un païen. Traiter les sages du Grand Conseil, et particulièrement le grand prêtre, d'incirconcis, c'est remettre en cause finalement toute une manière de vivre l'alliance entre le peuple juif et Dieu. Au verset 53, l'accusation « Vous n'avez jamais observé la parole de Dieu » est elle aussi particulièrement osée. En tant que responsables religieux, ils sont censés montrer l'exemple au peuple pour le respect de la parole de Dieu. Plus encore, le Grand Conseil comptait dans ses membres une majorité de pharisiens. Ces pharisiens avaient de leur propre souhait ajouté un nombre incroyable de règles à la loi de Dieu pour être sûr de la respecter. Du point de vue religieux, les pharisiens se veulent des exemples pour le peuple. Et Étienne les accuse d'être l'opposé de ce qu'ils prétendent être. Lui qui était l'accusé de la séance utilise son temps de parole pour accuser ses accusateurs. Cette défense est originale. Elle n'est pourtant pas sans fondement. En effet, le chapitre 7 fait 60 versets. Nous n'en avons lu que les 10 derniers. Durant les 50 versets précédents, Étienne réalise un monologue pour rappeler aux sages l'histoire de l'alliance de l'Éternel. Le but de ce monologue est annoncé à la fin du chapitre lorsqu'il les accuse de ressembler à leurs ancêtres. Ils ont rejeté Moïse et ils ont rejeté Dieu en faisant un veau d'or. Étienne rappelle que tous les prophètes ont été tués par ce peuple qui n'a cessé de rejeter Dieu. Désormais, il accuse le Grand Conseil de poursuivre cette macabre tradition en ayant tué celui que tous les prophètes avaient annoncé, Jésus-Christ. Ces accusations d'Étienne se basent sur cette vérité biblique. La nature de l'homme est mauvaise. La relation de l'homme avec son créateur peut être comparée à celle d'un enfant avec ses parents. Vers 2 ans, l'enfant peut passer par une phase d'opposition, une phase où tout est prétexte à dire non. Peut-être que les parents se reconnaîtront là. Je vous en lis ce que dit une pédopsychiatre. La phase du non identifie 3 changements. Premièrement, il se perçoit désormais comme un individu à part entière, avec sa pensée propre, et il entend le faire savoir. Deuxièmement, il a compris que sa volonté était souvent différente de celle de ses parents. L'utilisation du nom lui permet, peu à peu, de commencer un processus d'autonomisation face à ses parents. Troisièmement, l'enfant souhaite savoir jusqu'où va sa nouvelle autonomie. L'homme, dans sa relation avec Dieu, ne vit-il pas les mêmes choses? La volonté de penser et vivre pour lui-même. Le souhait de diriger sa vie comme il l'entend. Et finalement, parfois de pousser cette séparation avec Dieu le plus loin possible pour être capable de dire « Je peux parfaitement vivre sans Dieu ». L'homme pécheur, tout comme l'enfant, recherche l'autonomie. Lorsqu'Étienne rappelle l'épisode du veau d'or au verset 40 et 41 que nous n'avons pas lu, c'est la même chose. Le peuple a trouvé bon de se construire une statue, de déclarer que c'est son nouveau Dieu, et ainsi de pouvoir dire « Je suis supérieur à mon Dieu, car j'en suis le Créateur ». Étienne fait aussi mention du temple de l'Éternel au verset 49. « Quelle est donc cette maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur? Mon trône, c'est le ciel ?» Effectivement. Remettons les choses en place. L'homme est créature, Dieu est créateur. Mais l'homme, tout comme l'enfant, en recherchant leur autonomie, veulent contrôler un maximum de choses dans leur vie. Dans le cas de l'homme religieux, Cela passe par se faire un Dieu à sa portée, un Dieu contrôlable, un Dieu humanisé. Ce Dieu n'est pas celui qu'ont annoncé les anciens prophètes, ni celui que Jésus disait être. Seigneur et Sauveur, ne plaît pas à tous. Il demande un lâcher-prise sur sa propre vie, une résignation à le laisser guider notre vie à notre place. Si vous ne croyez pas en Dieu, peut-être n'êtes-vous pas prêt à lâcher prise sur votre propre vie. Ce n'est pas une chose évidente, un choix sans conséquence. Même si vous croyez que vous avez accepté Christ dans votre vie, vous sentez que le laisser guider votre vie est un combat quotidien. Et pourtant, quelle belle chose d'avoir accepté Christ. Dans la seconde partie de ce message, nous verrons quelle révolution annonce Christ et pourquoi Étienne risque tout pour le proclamer. Voici mon second point donc, Jésus-Christ, un message qui mérite d'être annoncé. Étienne, au verset 56, crie au grand conseil, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Cette révélation apporte au lecteur comme à l'auditeur, le grand conseil, plusieurs informations. Le ciel est ouvert, donc l'accès à Dieu le Père pour les hommes est possible. Le Fils de l'homme, alias Jésus, est avec Dieu, c'est-à-dire ressuscité et auprès de Dieu le Père. Le Fils de l'homme est à la droite de Dieu, position d'un extrême honneur et d'autorité sur toute la création. Du point de vue d'Étienne, le ciel est ouvert. Nous avons donc maintenant la possibilité de nous réconcilier avec le Seigneur et d'être dans la présence du Père. Ceci était quasi impossible pour les Juifs. Souvenez-vous, seul le grand prêtre avait le droit d'être dans le Saint des Saints du Temple de l'Éternel une fois par an et après multiples actes de purification. Jésus se tient debout. Il peut s'agir d'une position d'accueil ou celle d'un avocat. Regardez un tribunal. L'avocat se lève pour s'adresser au juge. Pour rester dans cette image judiciaire, Jésus ne se tient pas face au juge pour défendre son client, c'est-à-dire Étienne. Il se tient à la droite de Dieu, le juge. Cette image nous renvoie à la toute-puissance de Jésus-Christ, car il est lui-même Dieu de la Trinité. Tout pouvoir lui a donc été confié sur la création, sur nous. En synthèse, je vous renvoie à cette parole prononcée par Jésus lui-même durant son ministère terrestre. Je cite Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vision d'Étienne et cette parole de Jésus disent exactement la même chose. Afin que les hommes puissent être de nouveau dans la présence du Père, ils doivent passer par Jésus. Je répète. Afin que les hommes puissent être de nouveau dans la présence du Père, ils doivent passer par Jésus. J'insiste sur le « ils doivent » et « nul » n'accède au Père autrement que par Jésus. Mettons-nous donc à la place du grand conseil un instant. Accepteriez-vous d'entendre que le blasphémateur que vous avez condamné à mort est la clé pour être en bon terme avec le Seigneur? Et c'est pourtant ce qu'annonce Étienne et c'est ce qui signe ici son arrêt de mort. Étienne, connu comme le premier martyr de l'histoire chrétienne, n'a pas hésité une seule seconde devant le grand conseil. Il leur a démontré qu'ils étaient aussi mauvais que leurs ancêtres. Il les a accusés d'être des personnes hors de l'alliance de Dieu. Et même après les avoir sérieusement mis en colère, le texte nous dit qu'ils devinrent fous de rage au verset 57, il ne leur a pas partagé sa vision, celle de Jésus, se condamné à mort pour blasphème, qui se révèle être effectivement son motif de condamnation, c'est-à-dire Dieu. Je tends à croire que Étienne n'était ni fou ni suicidaire. Il connaissait le risque d'aller devant le Grand Conseil, la plus haute instance juridique du pays. Il connaissait l'épisode précédent où les apôtres, dans cette même cour, avaient réchappé de justesse à la prison avec l'express recommandation, qu'il n'a pas tenue, de ne plus parler de Jésus. Pourtant, en les voyant fous de rage, il leur annonce que Jésus-Christ est le Messie. La réaction n'a pas tardé, je lis le verset 57. À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Notez au passage que le conseil n'a pas le droit de condamnation à mort tant que la Judée est sous domination romaine. Pour le cas de Jésus, d'ailleurs, ils avaient fait les choses dans les règles, en passant par Ponce Pilate. Dans notre récit, le style d'Étienne est tellement direct que l'émotion prend le dessus. Étienne est un modèle pour nous, un modèle de courage, un modèle de zèle dans le partage de la parole de Dieu. Il avait compris l'importance de ce message à tel point que, comme Jésus avant lui, il était prêt à risquer sa vie pour ça. Et nous, pourquoi risquerions-nous notre vie? Pour nos proches, probablement. Peut-être pour sauver une famille d'un accident, je ne sais pas. Étienne l'a risqué pour annoncer à ses accusateurs que jusque-là, ils ont tout faux, que désormais, il faut croire en Christ. Aujourd'hui, je peux vous assurer, on l'a vu, on l'a prié, que des chrétiens dans le monde risquent leur vie pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Prenons l'exemple de la Syrie, pays dévasté par la guerre, dont on a entendu beaucoup de nouvelles infos, dont j'ai récupéré quelques infos à mon tour sur le site Porte Ouverte. La persécution est essentiellement le fait d'extrémisme islamique. Viennent ensuite le totalitarisme et les systèmes de corruption. L'extrémisme islamique, dans les territoires aux mains du groupe État islamique, il n'y a quasiment plus de chrétiens. Le totalitarisme, dans la Syrie d'avant-guerre, ce totalitarisme était le fait du gouvernement, mais aujourd'hui, il est plutôt utilisé par des groupes armés, prêts à tout pour rester au pouvoir. Les systèmes de corruption, ils prospèrent dans un climat d'impunité et d'anarchie, né de la guerre civile. Il prend surtout la forme d'enlèvement comme rançon à des fins d'enrichissement personnel. Les chrétiens sont enlevés pour des raisons idéologiques, politiques et financières. Et voici maintenant la citation d'un pasteur en Syrie où la bagatelle de 700 000 chrétiens ont dû fuir. Si je reste, c'est pour l'Église de Jésus, pour que son message continue d'être une lumière qui guide ceux qui ont peur et qui sont perdus. Si je reste, c'est parce que la moisson est grande, la souffrance est immense, une plaie profonde, un sentiment de désespoir. Si je reste, c'est pour suivre l'exemple de mon maître, qui faisait le bien autour de lui, qui guérissait tous ceux qui étaient sous la domination du mal. Si je reste, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'âmes à sauver. Comment quelqu'un dans ma situation pourrait partir? Par-delà la persécution, une seule chose reste. Annoncer Christ. Devant ce constat, que devons-nous faire? Je vous rappelle que la France n'était ni en rouge, ni en hachuré en bleu, dans mon introduction. C'est-à-dire ni dans les pays les plus persécutés, ni dans les pays à la plus forte croissance chrétienne. Devons-nous nous enfermer dans une bulle en attendant que les Français soient plus réceptifs au message biblique? Devons-nous baisser les bras en nous disant que la tâche est trop grande pour nous? Étienne, ce pasteur, nous prouve l'inverse. Que ce soit face au grand conseil juif ou face aux islamiques, ils sont là pour annoncer Christ. Nous ne sommes pas responsables de qui deviendra chrétien ou ne le deviendra pas. Ceci n'est une question personnelle entre chaque individu et le Seigneur. Notre travail, notre ministère à tous, c'est d'annoncer Christ. Et Étienne et ce pasteur nous montrent que c'est possible, même dans les pires conditions. Nous avons tous un parcours différent. Notre niveau de foi en Dieu est différent. Peut-être avez-vous déjà donné votre vie à Christ. Peut-être refusez-vous d'y croire. En réalité, de manière factuelle, que vous pensiez que la Bible dit vrai ou non, je vous invite à reconnaître le fait suivant. Encore aujourd'hui, des hommes et des femmes risquent leur vie pour annoncer aux autres que Jésus-Christ est le chemin vers Dieu, qu'il est leur passe pour une relation personnelle avec le Seigneur, sur terre et pour l'éternité. N'est-ce pas une raison valable pour que, personnellement, vous posiez la question d'accepter Jésus-Christ dans votre vie? Annoncer Christ, c'est difficile, c'est décourageant. Dans la fin de notre texte, Étienne, dans son dernier souffle, a une pensée surprenante. Il dit au verset 60, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Ce qui est étonnant, c'est cette pensée positive envers ses accusateurs qui sont en train de le lapider. Cette parole n'est pas sans rappeler celle de Jésus qui, une fois cloué à la croix, pria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et notre pasteur syrien dit la même chose. « Si je reste, c'est pour suivre l'exemple de mon maître qui faisait le bien autour de lui. » Je vous encourage à ne pas attendre votre dernier souffle pour aimer votre prochain. Aimons nos amis, nos ennemis, nos collègues, nos responsables, nos politiques, nos beaux-parents, notre famille. Bref, aimons tous ceux que nous côtoyons, car c'est en cela qu'ils verront que nous appartenons à Christ et qu'il n'y a pas de différence entre le message que nous annonçons et celui que nous vivons. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous as fait un grand cadeau, un très très grand cadeau en nous donnant ton Fils Jésus-Christ afin que notre relation avec toi soit restaurée. Et tu nous as demandé, à cause de cela, de l'annoncer aux autres, de l'annoncer que Christ est aussi mort pour eux. Et Seigneur, tu nous as bien mis dans l'embarras parce que tu vois nos difficultés à le faire. Tu nous as donné des exemples, tu nous as donné ta parole. Mais chaque jour est une difficulté pour le réaliser. Seigneur, aide-nous au quotidien, aide-nous dans notre travail, dans notre vie de famille, dans notre relation avec notre boulanger, par exemple, à éprouver de l'amour envers eux. Cet amour inconditionnel que tu as manifesté pour nous à la croix. Seigneur, aide-nous à comprendre pleinement les choses, les pensées de cet amour. Toi seul sais ce qu'est un amour fort et puissant, un amour inconditionnel. Aide-nous à le comprendre, enseigne-nous chaque jour. Sois avec nous. Amen.